Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans chaque âme en état de grâce, la Sainte Trinité tout entière est déjà présente et agissante avec sa grâce et tout son cortège de vertus et de dons du Saint-Esprit. Mais chaque fête de la Pentecôte est comme une nouvelle descente du Saint-Esprit qui renforce en nous les dons du Saint-Esprit, leur communique une nouvelle efficacité et nous donne plus de facilité pour les utiliser. Plus notre désir est grand, plus cette venue du Saint-Esprit sera fructueuse pour nous. Cependant, comme on ne peut désirer une chose que dans la mesure où on la connaît, nous allons voir à quoi servent les dons du Saint-Esprit, et puis chacun en particulier avec quelques exemples. D'abord, pour comprendre le rôle que jouent les dons du Saint-Esprit dans notre vie spirituelle, il faut commencer par quelques rappels par rapport au fonctionnement de l'âme humaine. Notre âme est dotée de toutes sortes de puissances, de facultés, qui lui permettent d'agir. Au niveau supérieur, intellectuel, cette partie de l'âme où nous ressemblons aux anges, nous avons notre raison pour connaître le vrai et nous avons notre volonté pour vouloir le bien. Au niveau inférieur, sensible, cette partie de notre âme que nous avons en commun avec tous les animaux, nous avons nos sens pour connaître le monde matériel et nous avons des passions pour nous porter vers les biens sensibles. Chacun de ces puissances peut être perfectionné dans son action par une vertu, comme par exemple la patience, la vertu de la patience qui modère la passion de la colère. Il y aura au moins autant de vertus que nous avons de puissance. Dans notre vie morale, toutes les vertus se résument dans les quatre vertus cardinales: de prudence, de justice, de force et de tempérance. La prudence aide notre raison à connaître le vrai, à connaître la raison d'être de chaque chose et son rapport avec notre fin dernière. La justice rectifie notre volonté pour l'aider à vouloir plus fermement le bien. Et puis la force et la tempérance modèrent nos passions. Ces vertus sont acquises par l'expérience en les exerçant. Par exemple, à force de se limiter dans la nourriture ou dans le boire, on développe la vertu de tempérance. C'est la vertu acquise de tempérance. Voilà en gros le fonctionnement de notre âme considéré uniquement du point de vue de la nature, c'est-à-dire sans parler de la grâce surnaturelle. Au sommet, il y a la raison, perfectionnée par la vertu de prudence, pour diriger toutes les autres facultés, pour mener une vie vertueuse et raisonnable. Cependant, comme nous savons tous, nous sommes appelés à une vie beaucoup plus élevée, beaucoup plus haute. Nous avons une fin surnaturelle qui surpasse la raison humaine. Nous sommes appelés à aller au ciel. Pour atteindre cette fin surnaturelle, les vertus acquises ne suffisent pas. Il faut que nos puissances soient perfectionnées par des vertus surnaturelles. Ce sont d'abord les trois vertus théologales de charité, de foi et d'espérance. Notre raison éclairée par la foi croit à des vérités dont elle n'a pas l'évidence, comme le mystère de la très sainte Trinité, par exemple. Notre volonté fortifiée par l'espérance et la charité sont rendues capables d'aimer Dieu et notre prochain avec le même amour surnaturel avec lequel Dieu s'aime lui-même et nous aime. De plus, quand l'âme est élevée par la grâce et vivifiée par la charité, toutes les vertus acquises dont nous avons parlé tout à l'heure sont hissées en quelque sorte à un niveau supérieur. Elles ne sont plus dirigées par la foi par la raison humaine toute seule, mais par la raison éclairée par la foi. Et même les vertus qu'on n'avait pas acquises par l'expérience sont infuses dans l'âme avec la grâce. C'est pourquoi, dans une âme surnaturalisée par la grâce et la charité, on ne parle plus des vertus acquises, mais des vertus infuses. Alors, avec tout cela, on pourrait croire que notre organisme spirituel est achevé, que cela suffit pour une vie chrétienne. Cependant, il manque quelque chose, et ce quelque chose, d'après saint Thomas d'Aquin, est même nécessaire au salut. Entrée dans le monde surnaturel, notre âme est comme désorientée, éblouie par cette lumière de la foi qui est trop forte pour notre faible raison. La raison a beau avoir des vertus surnaturelles à son service, elle n'est pas à même d'exploiter toute leur richesse. Il ne faut pas oublier que la vie surnaturelle à laquelle Dieu nous a appelés est une vie proprement divine. Un principe humain comme la raison, même élevé par la grâce, ne pourra jamais satisfaire pleinement à toutes les exigences d'une telle existence. Il faut aussi un principe d'action qui est lui-même divin. Ainsi, dans le chrétien en état de grâce, il y a deux principes moteurs. Un intérieur, c'est notre raison à nous, et puis un autre principe extérieur, c'est Dieu lui-même qui nous dirige. Pour suivre l'impulsion du premier, c'est-à-dire la raison, nous avons les vertus morales et théologales. Elles disposent nos facultés à obéir promptement à la raison. Mais pour suivre l'impulsion divine, Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit. Il dispose toutes nos facultés, y compris la raison, à obéir promptement au Saint-Esprit. Voilà donc à quoi servent les dons du Saint-Esprit. Ils nous rendent capables de nous laisser conduire par le Saint-Esprit exactement comme les vertus nous rendent capables de nous laisser conduire par la raison. Alors, on va les voir chacun. Le don d'intelligence. Le don d'intelligence supplée aux déficiences de notre foi. Lumineuse en elle-même, la foi, pour nous, est obscure, parce qu'elle ne peut pas nous donner l'évidence des mystères que nous devons croire. Mais normalement, notre raison n'est convaincue que par l'évidence. Le don d'intelligence va faire en sorte que nous soyons convaincus quand même. Il nous donne une sorte d'instinct à croire toutes les vérités proposées par l'Église et une pénétration du sens de ces mêmes vérités. Alors pour cela, nous avons un exemple dans la vie de Saint-Pierre de Vérone. Quand il était enfant, il était envoyé dans une école catholique, malgré le fait que ses parents étaient des protestants. Puis là, il a appris le credo catholique et il est revenu à la maison une fois, il récitait ce credo, celui que nous récitons nous-mêmes, et son oncle se met en colère en entendant Pierre parler d'un Dieu créateur, parce que ces hérétiques ne croyaient pas que Dieu était créateur, que c'était le démon qui a créé le monde. Et Pierre de Vérone, fortifié par le don de l'intelligence, tient bon, il dit « Ainsi j'ai appris, ainsi je crois ». Donc tous les arguments de son oncle ne valaient rien. Il avait comme l'évidence de la vérité de ces vérités catholiques. Et cette fermeté, cette assurance dans la foi par le don de l'intelligence donne aux autres dons leur inébranlable efficacité. Alors, c'est ensuite le don de science. Le don de science supplée aux défaillances de notre espérance. La raison est toujours tentée de mettre son espérance dans les moyens humains, l'argent, nos talents, nos amis. Le don de science nous fait apprécier toutes ces choses à leur juste valeur. Il nous fait voir leur vanité, leur caractère passager et décevant. Et par conséquent, nous sommes portés à mettre notre confiance uniquement en le secours de Dieu, ce qui est le propre de l'espérance. Et là, toute la vie de Saint Benoît-Joseph Labre était un exemple de ce don de science. Il a fait de sa vie un pèlerinage perpétuel, n'ayant ni maison ni argent, dormant dehors, mangeant ce qu'on lui donnait, parcourant les routes de la France et d'Italie dans une dépendance totale de la Providence. Ensuite, la sagesse. La sagesse vient en aide à la charité. Donc, parce que par la charité, nous vivons dans l'amitié de Dieu. C'est une vraie participation à la nature divine. Mais nous sommes un peu comme des compagnards, un peu frustes, invités à la table du roi. Nous ne connaissons pas les usages de la cour, nous sommes un peu gauches. Le don de sagesse nous met à l'aise avec les réalités célestes. Il nous apprend l'étiquette divine. Il nous permet de juger de ces choses divines de la même façon que Dieu et de goûter en quelque sorte cette amitié avec lui. Et là, on le voit dans la vie de plusieurs bergers et bergères qui ont été favorisés souvent des apparitions. Pensons à François de Fatima, Saint-Germain de Pibrac, la sœur Benoît au Loz. Ces gens très simples n'ont jamais fait d'études, ils étaient sans instruction, et pourtant, ils sont arrivés à une vraie familiarité avec les vérités divines, les vérités les plus hautes de la contemplation. Alors, le quatrième don, c'est le conseil. Alors, le conseil est comme les trois autres, parce qu'il concerne la raison ou l'intellect, mais il s'exerce plutôt dans le domaine de la raison pratique. Le don de conseil perfectionne la vertu de prudence. Il y a souvent des situations où notre prudence, même éclairée par la foi, ne suffit pas pour savoir quelle action il faut prendre. Il y a toujours des circonstances particulières qui ne relèvent pas de la foi. Par exemple, vous parlez avec un membre de votre famille ou une connaissance qui n'a pas la foi et vous cherchez des arguments, des choses à lui dire pour le convaincre. Mais souvent, cela dépend beaucoup de son tempérament, son passé, son éducation, de ce qui lui est arrivé ce matin-là même, etc. Et ce sont des choses que la foi ne nous apprend pas. Le don de conseil met à notre service l'omniscience de Dieu, qui voit tout, qui voit l'avenir, qui voit les secrets des cœurs, etc. Donc une fois, Saint François de Sales, il était chez lui un matin et il a reçu la visite d'un gentilhomme protestant avec qui il avait des bonnes relations, mais qui ne voulait pas se convertir. Mais il vient voir Saint François de Sales et il parle et le protestant lui offre un chocolat. Alors Saint François de Sales n'avait pas encore dit sa messe ce jour-là. Et donc, normalement, il ne pouvait pas prendre du chocolat parce qu'il devait rester à jeun pour dire sa messe. Alors, la foi, disons, la raison, même éclairée par la foi, aurait dit, la messe est plus importante, il faut que je refuse ce chocolat et pour pouvoir dire ma messe. Ça fera plus de bien pour ce protestant qu'autre chose. Mais il était éclairé par le don du conseil. Il accepte le chocolat, passe un bon moment avec le protestant, qui part plus tard. Et puis quand le protestant apprend, quelques jours après, cet acte de charité, que Saint François de Sales s'est privé de sa messe pour pouvoir parler avec lui, il était tellement touché qu'il s'est converti. Alors là, on n'aurait pas pu savoir ça avant. Alors ces quatre dons de l'intelligence, de science et de sagesse et de conseil s'exercent dans le domaine intellectuel. Mais les trois qui suivent interviennent surtout dans notre volonté et dans notre sensibilité. C'est d'abord le don de force qui perfectionne la vertu du même nom. La vertu de force, toute seule, peut suffire pour nous aider à surmonter les difficultés et les obstacles venant de la nature, donc les difficultés physiques ou de santé, de fatigue. Mais dans l'ordre surnaturel, nous avons des ennemis autrement redoutables, les démons et leurs suppôts sur la terre. En plus, l'enjeu est infiniment plus important, car il s'agit du salut éternel de notre âme. Le don de force nous donne un courage qui exclut toute crainte de ne pas obtenir notre fin. Parce que le plus grand péril qu'on peut subir, c'est-à-dire la mort, est justement le moyen d'atteindre cette fin surnaturelle qui est le ciel. Et pour cela, nous avons un exemple dans les enfants de Fatima, quand ils étaient mis en prison par le préfet, qui voulait leur faire révéler le secret de Notre-Dame. Ils devaient avoir une force d'âme extraordinaire pour tenir bon. D'autant plus que le préfet faisait sortir un par un les enfants en faisant croire aux autres qui restaient dans la prison que les autres étaient morts dans de l'huile bouillante. Mais les enfants avaient cette force de garder le secret. Ensuite, c'est le don de la piété. Le don de piété perfectionne la vertu de justice, qui est la vertu qui nous fait rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors, par la piété, nous nous acquittons parfaitement des devoirs envers le prochain et même au-delà de la stricte justice. Et nous rendons nos devoirs de religion avec la dévotion qui convient. C'est par le don de piété que les âmes saintes se sont émues devant les offenses faites à la majesté divine. L'abbé Le Praz, donc un abbé de la fraternité Saint-Pédis qui est mort en odeur de sainteté, quand il était jeune, il travaillait dans un atelier d'horlogerie. Et là, donc, malheureusement, il entendait tous les jours des blasphèmes, des jurons. Et il a décidé tous les soirs de dire un Je vous salue Marie pour chaque juron ou blasphème qu'il entendait pendant la journée. Et au début, ça montait à un nombre considérable. Mais il tenait bon à sa pratique et il a fini à la longue à éradiquer cette mauvaise habitude de ses camarades en faisant réparation. Alors, le dernier don, c'est le don de crainte. Le don de crainte fortifie, le don de crainte, c'est le don par lequel nous craignons plus d'offenser Dieu, qui est si bon envers nous, que de craindre les hommes, ou les choses qu'on peut nous faire, ou des incommodités dans cette vie. Par lui, nous craignons par-dessus toute chose de nous éloigner de notre Père céleste. C'est pour ça que ce don perfectionne surtout la vertu de tempérance, car ce qui nous éloigne de Dieu, c'est surtout une vie plongée dans les plaisirs de la chair, les plaisirs des sens, la mondanité, etc. Mais ce don nous aide en fait dans beaucoup de domaines. Chaque fois que nous pouvons craindre des hommes, ce don vient nous aider à craindre plus offenser Dieu. Dans la vie du père Gascon, qui était un saint prêtre pendant la Révolution française en Auvergne, donc il devait se cacher pendant la Révolution, et une fois il s'est caché dans une maison, et les soldats sont arrivés pour le trouver. Alors il était avec les deux enfants de la maison, il leur dit je vais me cacher. Et les enfants disent, mais qu'est-ce qu'on dit aux soldats? Il dit, je ne sais pas, débrouillez-vous, mais surtout, ne dites pas de mensonges. Donc, ils se cachent sous le lit. Les soldats entrent. Les enfants ont très peur. Et ils ne savent pas quoi dire. Mais ils avaient plus peur, en bon baptisé et confirmé, ils avaient plus peur d'offenser le bon Dieu. Donc, ils ne voulaient pas faire dire un mensonge. Disent aux soldats, il est caché sous le lit. Et les soldats se mettent en colère en disant, vous vous moquez de nous. Et puis ils sont partis sans même chercher sous le lit. Donc ça, c'est que le don de crainte qui pourrait inspirer un tel courage. Donc voilà, chers fidèles, ce à quoi servent les dons du Saint-Esprit. C'est par eux que nous dépassons notre mode trop humain d'agir, pour agir comme les êtres divinisés que nous sommes. Il reste maintenant dans notre vie de développer ces dons en nous par notre docilité aux inspirations du Saint-Esprit. Chaque fois que nous sommes dociles à ces inspirations deviennent plus fortes. Donc demandons cette grâce aujourd'hui et toute cette semaine pendant l'octave de la Pentecôte. Demandons-la surtout à la très sainte Vierge Marie, qui était le vrai temple du Saint-Esprit, qui était rempli du Saint-Esprit dès le premier moment de sa conception et qui, par son intercession, a fait descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.